Bonjour à toutes et à tous. Alors le mois de mai est en général un moment que les enfants aiment particulièrement, les jeunes, et les instituteurs, les institutrices, les professeurs, parce qu'il est ponctué de plein de jours fériés. Alors bien sûr ça dépend d'une année sur l'autre, il y a des années ça tombe sur des samedis ou des dimanches. Mais cette année on est plutôt gâtés. Et donc aujourd'hui, en tout cas ce week-end, est à nouveau un week-end de 3 jours. Et demain est une journée plus ou moins fériée, parce que c'est Pentecôte, le week-end de Pentecôte. Alors, si je dis Pentecôte, peut-être juste en vrac comme ça, à quoi pensez-vous par rapport à l'épisode biblique de la Pentecôte ? La venue du Saint-Esprit en nous. Des flamèches de feu qui se sont posées. D'autres choses ? Oui. L'évangile qui va être répandu parmi les nations. Premier miracle par Pierre, oui. Le parler en langue. Je vous invite à faire la lecture de Actes, chapitre 2, les versets 1 à 13. Qui nous relate ce qui s'est passé à la première Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, donc les disciples de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres : ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue ? Notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient : ils sont pleins de vin doux. Je m'arrête ici sur la lecture de ce passage. Il y a 3 ans, j'ai prêché sur ce texte qui relate ce qui s'est produit lors de la première Pentecôte. Pentecôte, ça vient de 50, qui signifie donc un événement qui s'est produit 40 jours après la résurrection du Christ et 10 jours après son ascension, ce qui nous mène donc 50 jours après sa résurrection. Et nous y avons vu à ce moment-là qu'au travers du don du Saint-Esprit aux croyants, la grâce d'un Dieu qui descend habiter chez tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons aussi évoqué la grâce d'un Dieu qui réunit, qui rassemble des hommes et des femmes de toutes les nations. Et si vous êtes intéressé par cet enseignement, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Ce matin, j'aimerais mettre plutôt le focus sur ce phénomène du parler en langue que l'on trouve ici, 2 autres fois en Actes, et évoqué aussi dans la lettre aux Corinthiens, en tant que don spirituel. Alors, c'est un sujet sensible sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Nous ne croyons pas que c'est un point théologique fondamental tant qu'on n'en fait pas un signe associé à la conversion. Ce sujet du parler en langue peut malheureusement être source de grande culpabilité, mais aussi d'orgueil parmi les chrétiens. Voici quelques questions que peut-être ce matin vous posez. Le parler en langue, c'est quoi ? Est-ce que cela correspond uniquement à des langues terrestres ? Ou, comme d'autres le pensent, cela correspondrait aussi à des langues dites célestes ou angéliques ? Est-ce que c'est normal que je ne prie pas en langue ? Est-ce qu'il me manque quelque chose, si c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en langue dans notre communauté ici à Cray? Est-ce que ce don est toujours d'actualité ou aurait-il cessé? Alors, ce n'est pas en 20 minutes que je peux prétendre faire une étude exhaustive du sujet. Et dans ce que je vais partager ce matin, je crois que peut-être plusieurs d'entre vous ne seront pas forcément tous d'accord avec cela, et c'est OK. En tout cas, quelle que soit votre compréhension ou votre pratique actuelle, je prie que ces quelques éléments que j'ai à cœur de vous partager vous donnent envie de creuser davantage le sujet en vous fondant non pas sur une expérience, mais en vous fondant sur ce que la parole de Dieu nous en dit. À ce titre, je vous recommande cet excellent livre écrit par un autre pasteur français, Florent Varac, « Saint-Esprit » et dons spirituels, dont la démonstration biblique qu'il fait me semble particulièrement pertinente. Voici donc sa position dans laquelle, en tout cas à titre personnel, je me reconnais aujourd'hui. Le parler en langue est un don parmi d'autres, un don miraculeux de l'esprit, une louange, une langue terrestre, un signe de jugement notamment pour Israël, un signe pour toutes les nations que la grâce de Dieu est accessible, une parole à traduire ou à expliquer, et enfin un don de transition qui a cessé aujourd'hui. Je propose un court survol en quatre points. Les langues dans l'Ancien Testament, un signe de jugement. Le parler en langue de la Pentecôte, le salut pour les nations. Le parler en langue à Corinthe, la diversité des dons. Et je terminerai par quelques réflexions historiques. Tout d'abord, les langues dans l'Ancien Testament. Pour comprendre ce qui se passe ici en Acte 2 et dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas ignorer d'où viennent les langues dans l'ensemble du récit biblique. Contrairement à une idée reçue, le parler en langue dans la Bible n'est pas initialement un symbole de paix ou de joie, mais un symbole de jugement. En fait, tout commence avec la tour de Babel en Genèse chapitre 11. À cette époque, rappelez-vous, les hommes parlaient un seul langage et ils voulaient s'unir pour bâtir une ville et une tour qui s'élève jusqu'au ciel. Un projet finalement orgueilleux pour se faire un nom contre Dieu. Et donc, pour mettre un terme à cette révolte et limiter l'expansion du mal, Dieu a confondu leur langage. La diversité des langues est donc, à l'origine, le fruit d'un jugement divin sur la race humaine pour provoquer la dispersion. Un peu plus tard, dans le Deutéronome au chapitre 28, Moïse énonce les bénédictions et les malédictions liées à l'alliance. Dieu avertit solennellement son peuple. S'ils désobéissent et se détournent de lui, il soulèvera contre eux une nation lointaine, et je cite, « dont ils ne comprendront pas la langue ». Autrement dit, entendre une langue étrangère parler au milieu de Jérusalem était le signe que le jugement de Dieu était en marche et que la protection divine était retirée. Ce motif se répète aussi chez les prophètes de l'Ancien Testament. En Ésaïe, au chapitre 28, le prophète s'insurge contre les chefs d'Israël, complètement ivres et moqueurs. Puisque ces chefs refusent d'écouter les paroles claires et simples de Dieu, l'Éternel leur répond « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » En d'autres termes, puisque vous refusez le message clair du prophète, vous subirez la dureté de la langue des envahisseurs assyriens. Le prophète Jérémie aussi dira la même chose au chapitre 5 concernant l'invasion à venir du peuple babylonien. Une nation dont on ne connaît pas la langue viendra juger Juda. Donc, dans tout l'Ancien Testament, les langues étrangères sont un panneau indicateur d'un jugement imminent sur Israël pour son incrédulité. Le parler en langue à la Pentecôte, salut pour les nations. C'est donc avec cet arrière-plan de l'Ancien Testament qu'on doit avoir que nous arrivons en acte 2. La Pentecôte est un événement historique unique. C'est l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie qui avaient annoncé la venue du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend, les disciples se mettent à parler en d'autres langues. Alors il est essentiel de noter qu'ici, en acte 2, le parler en langue, littéralement glossolali, correspond à de la xénoglossie. Comprenez par là, ce sont des langues terrestres, réelles, mais non apprises par ceux qui les parlent. Et c'est là que réside finalement l'aspect miraculeux. Des pèlerins venus de tout le pourtour du bassin méditerranéen, Parthes, Mèdes et Lamides, on a toute la liste, sont bouleversés parce qu'ils entendent ces hommes galiléens, ces hommes juifs, publier les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Ce ne sont pas des mots incompréhensibles prononcés dans un moment d'extase. C'est un miracle de communication dont le contenu est une louange à Dieu. Quel était le but de ce signe à ce moment précis? Eh bien, pour un juif pieux qui connaissait les Écritures et donc l'Ancien Testament, entendre ce jour-là des langues étrangères parler dans Jérusalem aurait dû provoquer un choc. Le jugement annoncé par Moïse et par Ésaïe et par Jérémie arrive. Et en effet, le jugement d'Israël pour avoir rejeté Christ, le Messie, allait finalement arriver en l'an 70 avec la destruction du Temple par les Romains. Les langues étaient le signe que le temps de la transition était venu. Mais ce signe portait aussi une grâce exceptionnelle. Si Dieu permet que sa louange soit proclamée dans des langues païennes, arabe, latin, crétois, etc., cela signifie que le Dieu d'Israël est désormais accessible à toutes les nations, sans exception. Les langues marquent la transition de l'ancienne alliance où le salut était essentiellement limité à un peuple et une langue, même s'il y a des exceptions, vers le nouveau régime de la nouvelle alliance qui inclut toutes les nations et toutes les langues. En fait, on assiste à la Pentecôte à un renversement du phénomène de Babel. À Babel, les langues dispersent les hommes et créent les nations. À la Pentecôte, les langues sont le signe que le salut est disponible pour toutes les nations que Dieu rassemblera et qui feront partie de son peuple. Et nous voyons ce schéma se reproduire en partie à deux reprises dans le livre des Actes. En acte 10, chez Corneille, un homme païen, où des personnes païennes reçoivent le Saint-Esprit et parlent en langue. Pour Pierre, à ce moment-là, pour l'apôtre Pierre, c'est la preuve que pour lui et pour les non, c'est la preuve pour lui que les non-juifs ont désormais pleinement accès au salut. Pierre dira, ils ont accès au salut comme nous, donc nous les juifs, au commencement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la Pentecôte se produit ici. Et ce ne sont plus des juifs qui parlent en langue, mais des païens. On retrouve aussi ce phénomène en acte 19, où cette fois ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui étaient les juifs les plus stricts, qui ne connaissaient que le baptême de repentance et qui vont vivre la même expérience pour montrer en quelque sorte que la boucle est bouclée. Ils sont intégrés, eux aussi, à l'ère de l'Église. Le temps manque, mais il y a des éléments forts pour soutenir qu'en acte 10 et en acte 19, il s'agit également de xénoglossie, des personnes qui se mettent à parler une langue terrestre non apprise. Allons maintenant du côté de Corinthe, et vous pourrez retrouver le récit, le passage dans 1 Corinthiens, chapitre 12 à 14. Quand on passe à l'église de Corinthe, on trouve une église pleine de dons spirituels, mais pauvre en maturité, qui est marquée par l'immoralité et par les divisions. Et en fait, Paul leur écrit pour réguler, entre autres, l'usage des dons, et particulièrement aussi celui donc des langues, qui est devenu une source d'orgueil spirituel. Et Paul insiste. Il leur dit, nous n'avons pas tous le même don. Et il utilise la métaphore du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe, etc. Affirmer que le parler en langue est le signe qui accompagne obligatoirement le baptême de l'Esprit pour tout chrétien semble donc contredire directement 1 Corinthiens 12. Le baptême de l'Esprit est l'expérience initiale de la conversion qui nous place dans le corps de Christ, dans l'Église. Ce n'est pas une seconde expérience qui serait réservée à certaines personnes et accompagnée de ce don de parler en langue. Paul nous dit par ailleurs, tous ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, mais l'Esprit distribue librement ses dons à chacun comme il le veut. C'est particulièrement ici, dans la lettre aux Corinthiens, que certains soutiennent qu'il existerait une deuxième sorte de parler en langue, la glossolalie, une langue céleste ou angélique, inintelligible par nature. Et cet argument-là repose souvent sur 1 Corinthiens 13:1, où c'est dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, etc. » Cependant, il est fort probable que Paul utilise ici un style de langage qui est l'hyperbole, c'est-à-dire une forme d'exagération. Dans les Écritures aussi, c'est intéressant de voir que chaque fois que les anges parlent, ils le font dans une langue humaine compréhensible. L'idée de langue des anges pourrait même être une allusion ironique de Paul à des cultes païens locaux où les adeptes entraient en transe extatique. Pour Paul, même le don le plus spectaculaire qui soit ne vaut rien sans l'amour. Un autre argument en faveur de langue terrestre à Corinthe, quand on regarde 1 Corinthiens 14, Paul cite justement Ésaïe 28, dont on a parlé tout à l'heure, qui parle d'une langue terrestre. Enfin, deux théologiens évangéliques, particulièrement réputés en France, concluent qu'à Corinthe, le parler en langue correspondait à des langues terrestres. Concernant l'interprétation, Paul ordonne qu'en public, personne ne parle en langue s'il n'y a pas d'interprète. C'est intéressant de regarder le mot original grec, herméneuo, qui peut signifier deux choses. Cela peut signifier traduire ou expliquer. Alors, si on opte pour le sens de traduction, cela permet à l'assemblée de comprendre la louange miraculeuse adressée à Dieu. Si on va dans le sens de l'explication, alors l'interprète pourrait être celui qui, comme Pierre lors de la Pentecôte, c'est dans la suite du passage qu'on a lu ce matin, explique le sens théologique du miracle. Ce que vous venez d'entendre, en fait, prouve que le Dieu d'Israël accueille maintenant toutes les nations. En tout cas, dans un sens comme dans l'autre, le but est l'édification des autres. Là encore, Paul fait sûrement preuve d'ironie quand il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans un contexte, et on parle bien du contexte de la lettre aux Corinthiens, où tout doit servir au corps, s'édifier seul pourrait être perçu comme une forme d'égoïsme spirituel. Quatrième et dernier point, quelques réflexions historiques. Il semble qu'une grande majorité de chrétiens a accepté, durant les 19 premiers siècles de l'histoire de l'Église, que le don des langues avait cessé. Les langues étant annonciatrices d'un jugement, celui-ci s'est produit pour Israël avec la chute de Jérusalem et la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. Les langues ont cessé de se manifester un peu avant cette date. Elles ont atteint leur objectif d'annoncer la grâce de Dieu à toutes les nations. Après cette date, il n'y a plus aucune référence au parler en langue dans le Nouveau Testament. Et le passage sur les dons dans la lettre de Pierre est le seul des quatre références aux dons spirituels qui est écrit après cette date. Et comme les autres lettres postérieures qui ont été écrites après 70, après Jésus-Christ, le don des langues n'est plus mentionné. Les nations ont pleinement accès au salut par Jésus. Il y a aussi l'histoire de l'Église, et Florent Varac affirme, l'histoire de l'Église n'est pas déterminante pour fonder une doctrine, mais elle peut se révéler utile pour évaluer la pertinence d'une position. Et en ce sens-là, c'est intéressant de noter que des pères de l'Église, comme Augustin ou Chrysostome, qui ont vécu au IVe siècle, considéraient que ce don de transition avait accompli son but une fois que l'Évangile avait été attesté parmi les nations. Ils voyaient dans les langues le signe que l'Église était désormais composée de tous les peuples. Voilà pour ce court survol concernant le parler en langue. Florent Varac encore affirme « La position et la pratique des églises qui le comprennent ainsi ne sont en rien déficientes. » Quelle que soit votre position sur ce sujet ce matin, je prie en tout cas que ce week-end de Pentecôte soit à nouveau l'occasion de nous réjouir et de célébrer tous ensemble l'accès au salut pour les personnes de toutes les nations. Et pour terminer notre court parcours de la parole de Dieu, on ne peut pas le faire sans citer par exemple ce passage d'Apocalypse, dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la question se pose. Parlerons-nous une seule et même langue? Parlerons-nous chacun la langue que nous aurons apprise, mais avec une compréhension mutuelle parfaite? Plus besoin d'interprète. Où communiquerons-nous d'une manière différente des langues humaines actuelles? La position la plus répandue dans le milieu évangélique tend vers une combinaison. On voit clairement, en tout cas, que la diversité des peuples est pleinement célébrée. Et elle le sera. Mais les barrières de communication seront parfaitement surmontées, que ce soit par une langue commune, en gardant nos langues, mais avec une capacité de compréhension mutuelle, ou par un mode de communication glorifié. Seul Dieu sait, et quoi qu'il en soit, ce sera parfait. En tout cas, ce qui fait l'accord général, il n'y aura plus aucune incompréhension, plus aucune barrière. La communion sera parfaite. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et en cette période de Pentecôte, on va encore célébrer et nous réjouir de ce projet que tu as de toute éternité, qui fait écho aussi à cette promesse que tu avais faite à Abraham en Genèse, où toutes les familles de la terre seraient bénies par sa postérité. On sait que cette bénédiction s'est accomplie au travers de la venue de Christ. Et après son ascension, on veut te rendre grâce aussi pour ton esprit qui est répandu dans la vie de toutes celles et de tous ceux qui reconnaissent, qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Merci pour l'Église. Merci pour ce peuple constitué d'hommes, de femmes, d'enfants, de toutes les nations. Cela nous dit quelque chose de la diversité. Je veux te bénir encore pour ton Église ici à Cré. Merci pour la diversité qui existe parmi nous, même dans la compréhension de certains points théologiques. Et Seigneur, je te prie que, à l'image de ce que l'apôtre Paul nous exhorte, nous puissions être animés les uns et les autres par cet amour, que nous puissions nous servir et nous aimer de manière pratique. Et Seigneur, voilà, malgré et dans toutes nos différences, Seigneur, qu'on puisse vivre aussi ce respect les uns pour les autres. Merci pour cette magnifique promesse, cette magnifique espérance des nouveaux cieux, de cette nouvelle terre qui arrive et dans lequel ton Église, celle que tu as rachetée au prix précieux de la vie de ton Fils Jésus-Christ, sera réunie et rassemblée d'un même cœur, d'un même esprit, pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer par nos vies tout entières. Amen.